chance qu'on s'aime. Salut tout le monde, bienvenue à Une chance qu'on s'aime. Je m'appelle Pierre Luc Audet et je suis toujours et encore en compagnie de mon ami Pierre-Antoine Gilbert. Salut Pierre.
Salut Pierre-Luc.
PA, aujourd'hui, on va enfin savoir d'où viennent toutes tes connaissances et pourquoi tu es si intelligent. C'est parce que tu as eu un bon prof dans ton parcours.
Oui, puis imagine, j'ai dû retenir 10% de tout ce qu'il m'a enseigné et dit.
Bon, je ne sais pas pourquoi je ris. Je ne suis pas surpris du tout, mais c'est quand même 10 fois plus de ce « moi, je retiens » de ce que tu me dis. Fait que tu vois comment que les connaissances, ça s'effrite avec le temps.
Là, je t'ai complètement perdu dans tes calculs.
Bon, on va parler avec Ghislain Jutras aujourd'hui, que, bon, comme on l'a dit, ça a été ton prof. C'est un gars qui fait une grande aventure bio. Il a laissé son poste de professeur en agriculture bio au cégep de Victoriaville à l'INAB, Institut national d'agriculture biologique, pour se lancer dans sa grande odyssée biologique.
Hey, écoute, je viens de réaliser, Ghislain, là, ça a été mon prof, mon collègue, mais c'est surtout un ami. Puis là, ben, il a décidé qu'il faisait le tour du monde des fermes du Québec dans sa biomobile, une vanne faite pour dormir, donc un camping-car, puis il se promène un peu partout pour rencontrer plein de fermiers et de fermières d'ici qui font des légumes bio.
Bon, c'est beaucoup plus courageux que nous autres qui gardons nos jobs puis faisons le balado le soir puis les fins de semaine. C'est aussi un baladiste, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais il a fait un balado pour le réseau des fermiers et fermières de famille qui s'appelle... Comment ça s'appelle déjà son balado?
À l'écoute de nos racines.
Ouais, c'est ça. Je l'ai pas entendu encore, toi, tu l'as-tu écouté?
Ouais, écoute, c'est bon, puis je vais te dire que c'est pas mal plus professionnel que ce qu'on fait, toi puis moi.
Ah bon? Je sais pas trop quoi répondre à ça. Sinon, qu'on pourrait plugger aussi un autre balado qu'on aime bien, puis c'est des gens super sympathiques. J'ai eu la chance de les écouter à quelques reprises. C'est les gars des Idées Radicules.
Ouais, exact. Mais eux autres, c'est peut-être pas des baladistes, mais des podcasters. Je sais pas si on peut dire ça, mais vu qu'ils sont plus jeunes un peu, j'essaie de faire ça un peu plus cool. Fait qu'on leur fait un petit shoot-out, hein? À nos amis du podcast Les Idées Radicules. J'ai eu la chance d'échanger avec eux dans un épisode avec notre ami Danny Bouchard de l'Académie Potagère. Puis écoute, ça a été vraiment génial. Fait qu'allez suivre ça aussi si vous êtes des mordus d'agriculture bio. Ça fait partie des musts là, qu'on vous partage.
Est-ce que les autres, ils enregistrent leur balado dans leur walk-in ou dans leur sous-sol?
Ben écoute, on peut continuer à se tirer dans le pied, mais ils ont un studio d'enregistrement qui loue. Hey, c'est tellement professionnel, là. Moi, ça m'a jeté à terre. Mais je sais pas lesquels des deux étaient les plus flabbergastés, là, parce que quand je leur ai expliqué qu'on faisait ça dans nos garde-robes à distance, ils me regardaient un peu bizarre. Mais c'est ça, chacun sa façon. C'est ça le balado, c'est tellement démocratique, tout le monde peut en faire.
Ben, tu vois, moi, je te regarde bizarre parce que je te vois dans mon Zoom, puis tu as une nouvelle moustache, puis c'est très bizarre ça aussi. Fait que habitue-toi à te faire regarder bizarre.
Merci.
Fait que on part ça, le balado avec Ghislain. Merci à Ghislain de sa généreuse participation. On vous laisse tout d'abord, mesdames et messieurs, avec nos commanditaires qu'on aime. Merci à notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui nous accompagne dans cette belle aventure de la saison 2 de Une chance qu'on s'aime. Ben, je dis saison 2, mais en vérité, moi, ça fait des années que ma fermière de famille m'accompagne dans mon jardin. À chaque année, je me fais manger mes betteraves par les marmottes. Fait que je vais voir ma fermière de famille, puis j'achète ses légumes, ils sont parfaits.
Bon, enfin une bonne raison de ne pas suivre mes conseils. Ça va te donner l'occasion de rencontrer la personne qui fait pousser tes légumes bio et locaux. Mais je suis curieux, comment t'as fait pour la trouver, ta fermière de famille?
Ben, j'ai été sur le site du Réseau des fermières et fermiers de famille, au fermierdefamille.com. Puis là, tout de suite, il y a une carte qui me dit quels sont les membres du réseau les plus près. C'est full techno. C'est la nouvelle façon d'acheter des légumes bio.
Ben, c'est pas tout à fait nouveau. La RFF soutient les maraîchères et les maraîchers depuis 25 ans. Ils sont maintenant au moins 150 fermières et fermiers de famille, d'Ottawa, Moncton, en passant par le lac Saint-Jean et Montréal. Tu vas avoir un hot dog avec du chou qui a poussé à la manière de chez nous.
C'est génial, ça, parce que ça permet aux consommateurs de se trouver un maraîcher bio et local, puis ça permet aux fermières et fermiers de rejoindre l'assiette du monde. C'est une belle histoire dans laquelle tout le monde s'aime.
Oh!
Hey, PA, j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant, ça s'appelle Fertifras.
What the frass?
Non, Fertifras, connais-tu ça?
Non, ça sonne comme un engrais à base de déjection d'insectes élevé par tricycle à Montréal, 100% bio, 100% local, mais non, je connais pas ça.
Mais là, tu me niaises-tu, c'est exactement ça. Ça a un TPS de 332.
NPK, PL.
OK, PA, NPK. Et 332, c'est aussi bon que 20-20-20?
Ben, c'est bien mieux comme produit. Premièrement, c'est naturel, c'est certifié biologique, c'est riche en matière organique, ça nourrit donc le sol, pas juste la plante.
Non, mais c'est quoi l'intérêt? Moi, c'est pas du sol que je veux faire pousser.
C'est la même différence que juste manger des pilules ou manger un bon repas complet. En plus, tu peux aussi en donner à tes plantes d'intérieur. Tu l'as trouvé où, ton Fertifras?
Sur le site de fertifras.com, mais je sais qu'il y en a au centre jardin proche de chez vous.
Cool!
J'ai hâte de voir la frasse que tu vas faire quand tu vas voir la grosseur de mes tomates.
Une chance qu'on s'aime. Une chance qu'on s'aime. Une chance qu'on s'aime.
Non, ben, tu voulais y aller avec une première question?
Ben là, je brûle pour point, je suis comme gêné. Là.
Ben, t'es pas brûle pour point, parce qu'on est maintenant en compagnie de Ghislain Jutras. Bonjour, Gigi, je t'appelle Gigi, Ghislain, Juju?
À l'italienne, Gigi.
Gigi, oh, el amoroso.
Exact.
Exact.
Tu fit parfaitement dans notre concept de une chance qu'on s'aime, Gigi.
El amoroso.
Mais tiens, d'abord, je vais y aller tout de suite avec la question que je trouve la plus importante pour cette saison-ci de balado.
C'est amoureux de quoi, finalement?
Ben,
de la vie.
Quasiment amoureux du jardinage, j'imagine. Mais est-ce que tu penses que l'amour, c'est un intrant obligatoire pour le jardinage?
C'est la condition sine qua non.
Ah ouais, OK.
Puis... le point de départ, la pierre d'assise.
Puis elle se manifeste comment, l'amour dans le jardinage?
C'est la relation qu'on entretient avec les plantes. En tout cas, moi, si je me souviens un peu de qu'est-ce qui m'a amené dans cette voie-là, c'est un stage sur une ferme alors que j'étudiais en agronomie à l'Université Laval. Puis c'était à ma deuxième année d'études. Puis les deux premières années, j'étais rentré plus avec l'intérêt pour l'élevage puis la science des sols. Puis, en faisant un stage à la ferme Éboulementaise dans Charlevoix, j'ai rencontré un amoureux des plantes, Vital Gagnon. Puis, il m'a comme transféré cette fibre-là pour le monde végétal. Puis, ça a commencé comme ça, un genre de coup de foudre avec la diversité des plantes, des formes, des saveurs, des odeurs.
Le végétal au sens large ou le légume plus particulièrement?
Ah, c'était vraiment au sens large, là. Puis même, je te dirais même, avant ça, c'était les plantes sauvages.
Okay.
Et puis c'est devenu les plantes potagères.
Mais c'est comme un couple finalement, hein? Un peu l'amour de la plante. T'sais, au début, tu anticipes la relation en disant peut-être qu'elle va m'aimer, peut-être que non. Puis le jardin, quand on l'entrevoit, c'est comme ça. Là, à mi-parcours, des fois, ça se met à déraper.
Vous deux, vous vous êtes connus à l'école?
Hey, ça a été mon prof, Ghislain.
Ah, c'est-tu vrai?
Ouais.
Ben voyons donc.
Je te jure.
Ah, c'est ça, les cheveux blancs?
Oui. Les miens ou les siens?
Ben là, vous vous confondez tous les deux. Là.
Ouais,
mais vous avez la même coiffeuse.
Mm-hmm.
Mais où ça? À l'université?
À l'université Laval.
T'enseignais quoi?
Le cours d'agriculture écologique.
T'as enseigné à l'université?
Oui.
Après ça, t'as enseigné au cégep?
C'est ça, Victo.
Là, tu fais du balado, ça va bien tes affaires?
je me balade.
Parce que Ghislain, là, pour le bénéfice de nos auditeurs, Ghislain, donc là, on commence à comprendre là, le parcours de Ghislain qui a fait de l'enseignement, puis qu'à un moment donné, t'as tout lâché. Ben, t'as tout lâché. T'as lâché l'enseignement, puis t'es parti l'Odyssée bio. Avec Gigi. Ou Gigi?
Gigi.
Gigi, OK.
Oui, mais en fait, tout ça, c'est un même fil conducteur. J'ai l'impression d'avoir construit quelque chose en forme de poupée russe, si on pourrait dire. Parce que le fil directeur dans tout ça, c'est de permettre... C'est un besoin ou une pulsation de créer un environnement favorable à ce que les gens échangent l'information, apprennent, puis donc c'est dans le, je dirais, libéralisation des savoirs. Là. Alors, dans tout ce que j'ai fait, ça m'a suivi, puis il n'y a pas de coupure comme telle, mettons. On pourrait regarder sur un CV que j'ai fait un emploi de telle date à telle date, puis après ça a été un autre. Ouais. Mais dans tout ça, il y a une suite logique, je pourrais dire, de toujours relié finalement à ce que... le savoir des uns serve aux autres, puis et vice-versa, puis qu'on soit pas toujours obligé de refaire la roue, réinventer la roue.
Est-ce que tu ressentais le besoin que tes enseignements soient de plus en plus démocratiques, soient de plus en plus axés vers le citoyen et son jardin,
où tu mets sur le même pied d'égalité là, les jeunes qui vont devenir des éventuels agriculteurs, puis monsieur, madame, tout le monde qui fait un jardin à la maison?
Oui. Bien, il y a une progression là-dedans, à savoir que lorsque j'ai commencé, j'avais pas de terre agricole, puis j'étais urbain. J'avais quand même commencé à travailler sur des fermes là, à 12 ans. Là. Donc, je me suis hybridé assez rapidement, mais reste que mes premières interventions que j'ai faites en agriculture, c'était quand j'étais à l'université. Bon, j'ai enseigné à des futurs... avant d'être prof, quand j'étudiais, je me suis plongé dans le monde justement plus du jardinage en lien, suite au stage que j'expliquais que j'ai fait dans Charlevoix. Mais ça m'a amené l'année suivante à lever la main dans un comité étudiant pour mettre sur pied à l'Université Laval un jardin de démonstration en jardinage écologique. Là. Okay. Donc, dans notre comité, c'était Via Agroécologie, ça existe toujours. Là. Donc, c'est on va dire l'aile environnementale des étudiants en agronomie à l'Université Laval. Donc,
c'est un super beau jardin, en fait. Là.
Oui, puis ça existe encore. Parce que mon stage en Charlevoix, c'était 2000. L'année suivante, c'était 2001. Donc, ça se compte bien. Là, on est en 2022. Donc, c'est sûrement la 22e année du jardin de démonstration. Wow.
De démonstration.
Ouais, de démonstration. Au départ, c'était démonstration. Puis, avec les années, c'est devenu un jardin collectif. Juste en arrière là, du jardin Van Denen, pour ceux qui connaissent la ville de Québec. Donc j'étais élève, puis à l'université, mais je cherchais à développer mon côté pratique. Puis, comme cet amour-là, le fait que j'étais tombé en amour avec les plantes maraîchères, potagères à l'été 2000, ça m'a amené par les étés suivants à essayer d'entretenir cet amour-là en mettant sur pied, entre autres, le jardin. Et des fois, j'avais des invitations à donner, des présentations, des conférences ou juste initier d'autres élèves pour qu'ils s'impliquent dans le jardin. Donc, mes premières années, là, c'était avec le livre de Yves Gagnon, puis à préparer des entretiens ou des ateliers sur comment faire le compostage, comment faire la rotation des cultures, ce genre de trucs-là.
Ça pognait-tu ton affaire ou tu prêchais dans le désert?
Non, il y a une belle gang qui s'est développée autour du jardin, puis ça a même suivi là, après que je sois parti, parce que c'est ça existe toujours.
C'est fou, là, 22 ans quand même, là, c'est impressionnant. Puis l'Université Laval, faire un peu de pouce là-dessus, elle a aussi un grand jardin communautaire où des gens ont des parcelles qui cultivent, là, mais qui n'est pas au même endroit. Le jardin Van Denen, c'est un jardin de démonstration aussi, on est plus dans l'ornemental, mais c'est vraiment hot qu'il y ait tout ça en place finalement sur un site qui est carrément en ville, là, finalement. Là. Fait que, mais le jardin Via Agro, il y a une autre passion que les plantes. Là. Moi, je t'amène sur la voie de l'agroécologie. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place un peu concrètement si je te lance sur cette voie-là? Je sais que tu pourrais parler tout seul à partir de là pendant une demi-heure. Heure,
mais... la question, c'est sur des éléments pratico-pratiques,
oui,
ou qu'est-ce que l'agroécologie?
C'est
là, parce
les
que...
deux. Les deux.
Ouais, okay.
En une phrase, c'est quoi?
Tu n'es pas bonne personne pour résumer. Non, mais... c'est ça. Après les... je reste un peu dans la chronologie, là, mais... la dernière portion de mes études en agronomie où ce que justement j'ai été plus impliqué dans le jardinage à le faire et à donner des présentations. C'est sûr, je m'étais fait connaître un peu auprès de la faculté, puis en parallèle, on militait aussi pour que le cours d'agriculture écologique, ouais, à l'université demeure dans l'offre de cours après que le prof ait pris sa retraite, parce qu'il y avait un professeur, M. Étienne Rocha, qui était une grande influence pour moi, qui lui préparait sa retraite. Puis quand un prof part à la retraite à l'université, ça ne veut pas dire que son cours va suivre. Ça se peut que le cours suive à la retraite aussi. Mm-hmm. Donc, on voulait s'assurer que la faculté continue d'offrir cette portion d'enseignement-là. Puis j'avais monté, pas seulement que moi, mais avec d'autres amis, là, on s'était fait un petit groupe de pression qu'on avait appelé l'Épibio. Et puis, on avait monté là, un genre de petit manifeste qu'on avait présenté à faculté. Et d'une certaine façon, on va dire ça s'était retourné contre moi, mais à la positive, là, c'est que éventuellement, quand M. Rocha a pris sa retraite, moi, je venais de finir mes études en agronomie. J'avais un bac, mais j'avais quand même accumulé une certaine expérience dans le domaine. Puis, je me qualifiais comme chargé de cours là, pour enseigner l'agriculture écologique. Mais ça suppose d'enseigner l'agriculture écologique à des étudiants qui étudient en agronomie, donc pour devenir agronome. Donc, agronome, c'est... ça peut amener à avoir sa propre ferme, mais beaucoup des étudiants, des élèves, finalement, vont travailler comme intervenants pour appuyer les gens qui font l'agriculture de leur métier. Donc, les intervenants, ben, c'est des conseillers, c'est des chercheurs, c'est des professeurs, c'est tous les gens qui travaillent finalement dans le côté scientifique pour appuyer la production. Donc là, moi, je me retrouverais à enseigner à cette future génération-là d'agronomes, un cours pour les introduire à l'agriculture écologique / biologique.
La classe était pleine à rabord, là. Tu sais, c'était un cours optionnel, on n'était pas obligé de le prendre, mais les gens le prenaient, là.
Exact. Il faut dire que ça faisait 2 ans que le cours n'était pas donné parce qu'il y a eu un petit entre-deux là, au moment du départ du prof à la retraite. Oui, il y avait 63 élèves, je me souviens très exactement. Moi, je venais de finir mes études, puis j'enseignais à des gens que j'avais même côtoyés.
Aucun syndrome d'imposteur ici. Là.
Non, mais c'est sûr que je me disais que j'allais faire de mon mieux, puis... j'avais confiance en ce que j'étais capable d'amener, puis même, c'est drôle parce que quand j'avais suivi ce même cours-là d'agriculture écologique quelques années auparavant avec M. Rocha, déjà, tu sais, je me dis, ah oui, dans ce cours-là, il me semble qu'on pourrait faire ça aussi, puis ça aussi, puis de par l'expérience que j'avais de travailler sur des fermes, puis d'avoir monté le jardin aussi à l'université, fait que j'avais des idées, puis je m'étais même comme... j'avais écrit un plan de cours avant même là, de savoir qu'un jour j'allais donner. Moi, j'avais écrit ce plan de cours-là en me disant que la personne qui prendra relève de M. Rocha ben, pourra avoir des idées, puis tout bonnement comme ça. Là. Finalement, ben...
comme par hasard.
Ouais. Mais Gislain, il est incorruptible. Là. On ne fait pas l'acheter avec de la bière, mettons, le vendredi pour avoir une meilleure note à la fin. Là.
Ouais, surtout dans ce temps-là, je n'en prenais pas beaucoup. Là.
C'est quoi? Fallait que tu lui donnes une asperge? Ou...
Non, il fallait vraiment que tu sois, comment dire, focus à ton affaire, concentré, etc. T'sais, moi, j'arrivais sur une ferme, le producteur il était nu-pied, donc je me mettais nu-pied. Fait que là, Gislain disait, OK, ça, c'est 2 points de moins. Fallait que tu gardes tes souliers, et ainsi de suite. Mais c'était cool, puis il y avait beaucoup de visites. Peux-tu croire, moi, l'année d'après, il m'a engagé, une fois la maîtrise, pour faire des visites de ferme avec des autobus qui partaient dans différentes directions. Moi, j'ai été qualifié pour embarquer dans l'autobus puis accompagner du monde.
Mais là, t'avais des
souliers. Même, moi, c'est ça. Ouais, il y avait ses souliers.
Je gardais mes
souliers. J'ai pas exigé les capes d'acier, là, non. Mais...
Ah, puis je t'ai payé 17,5 de l'heure. C'est une fortune, là, à cette époque-là. C'était...
pour aller visiter des fermes.
Ouais, c'était malade. Mm-hmm. C'était vraiment cool, ça.
Ouais. Mais là, c'est-tu une grosse tâche d'enseigner l'écologie au monde agricole? Tu sais, il semblerait que ça va pas de soi être écologique dans sa culture.
Ben, je le voyais comme une responsabilité. Je m'en faisais une responsabilité importante. Là. Je me disais que pour plusieurs de ces élèves-là, je pouvais sentir un peu dans quel état d'esprit il était parce que moi, je l'ai été. Puis je venais juste de sortir des bancs d'école. Puis en fait, j'avais milité ou pas juste milité, mais juste passé du bon temps avec ces gens-là à parler d'agriculture écologique, etc. Puis je voulais leur donner le meilleur de ce que j'étais capable. Puis en me disant que c'est que oui, j'enseigne à ces gens-là maintenant, mais je nourris 2 choses, tu sais, l'aspect des connaissances qu'ils acquièrent, les savoirs, plus l'aspect intellectuel, mais en même temps, c'est aussi de nourrir une passion, donc ça se passe au niveau du cœur, la tête, le cœur, puis éventuellement les mains aussi, à savoir qu'il y a des aspects pratiques, puis ça nous amène à être capable de concrétiser tout ça, là, nos savoirs, puis notre motivation, il faut réussir à la passer dans le monde du 3D, là, du concret. Fait que je me disais que ces enseignements-là, ou en fait, ces enseignements-là, le contexte que je crée, parce que moi, j'ai jamais pensé que ça allait sortir de ma tête, puis que, tu sais, je nourrissais des oiseaux là, qui étaient assoiffés. Je veux dire, je le disais même dès le début du cours, je crée un environnement où ce que ça sera pas dans une, ça sera pas une voie unique, une seule direction. Je crée des contextes d'apprentissage. Puis c'est ce qui m'a amené à mettre beaucoup de place aux visites de ferme dont Pierre-Antoine parlait tout à l'heure. Je me disais, faut que je fasse d'une certaine façon un peu revivre à ces gens-là ce que moi j'ai vécu. En tout cas, moi, c'est comment j'ai appris, c'est pas un prof qui m'a tout dit, ouais. Là, c'est d'être en contact avec le monde, la réalité. Puis, fait que je me disais, si je suis capable de, ben c'est ça, nourrir la tête puis le cœur en même temps, dans un contexte réel du terrain, ben que ça, tout ça allait avoir des ricochets plus tard. C'était quoi ma responsabilité là? C'est l'action que je pose en donnant ce cours-là de 45 qui est monté à 60 heures par la suite, c'est de me dire que ces gens-là qui passent là, dans un petit carrefour, ben, ils repartent chacun avec un petit bagage de ça, une motivation, des connaissances, des compétences. Puis dans leur prochain milieu de vie, de travail, ben, pourront réinvestir ça en tant qu'un décideur. Tu sais, j'ai recroisé après ça mes étudiants, puis il y en a partout. Là, aujourd'hui, là, j'ai peut-être enseigné à autour de 400 personnes, si j'inclus le cégep là-dedans. Aujourd'hui, ça, les statistiques pourraient monter plus vite parce qu'il y a de plus en plus d'élèves là, qui s'inscrivent, mais disons, pour les années, la quinzaine d'années que j'ai enseigné, ça représente peut-être 400 élèves, puis là-dessus, ben, c'est pas toutes des gens qui ont des fermes, il y en a quand même plusieurs, mais toute la balance, ben, il y en a qui travaillent au ministère de l'Agriculture, il y en a qui travaillent dans des clubs conseils en agro.
Sont-ils tous en mode écologique?
Ben moi, je pense qu'ils ont toute une parcelle de ça, tu sais, de par le cours et d'autres choses qu'ils ont faites dans leur parcours. Moi, j'ai contribué à ce moment-là de comme j'ai pu...
À cette heure, ben, c'est sûr qu'ils s'en souviennent. Les visites, pour moi, c'est un truc qui est hyper marquant. D'aller voir des fermes, là, on s'en souvient après ça. Juste l'environnement où on a une image d'un paysage en tête ou d'un individu. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de marquant. Le cours, il était à option. Il devrait être obligatoire. Ça reste que la gang qui était là, on écoutait du Neil Young puis du Bob Dylan. Là, on était moins dans la danse en ligne pour être dans les gros clichés. Là. Mais si c'était obligatoire, c'est ça, tu sais, finalement, parce que prêcher à des gens qui sont déjà convaincus, c'est une chose. Mais là-dedans, je pense qu'il y en avait, des fois, c'est ton côté rassembleur qui devait n'attirer aussi, qui serait peut-être pas allé naturellement si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense. Là,
faisiez-vous des visites de fermes écologiques seulement ou vous alliez voir là, l'autre côté de la médaille?
Ben, y avait déjà des cours dans lesquels c'était fait. Là,
ça. On avait un cours qui s'appelait visite agronomique. Fait que ça, on allait voir toutes sortes d'entreprises. Là. Ça pouvait être, je sais pas moi, une canne bergère. Ça pouvait être, à un moment donné, on avait été dans des milieux humides, dans des tourbières.
Les tourbières, les fermes porcines, les fermes laitières.
De tout, là. Fait que celui-là, ben, avec Gislain, on était vraiment plus dans la ferme écologique. Puis c'était les groupes, à 63, c'était du monde, là. Fait que tu les reséparais. J'allais dire, les groupes étaient plus petits, mais c'était quand même du monde. Ouais. Puis 400 élèves. Aujourd'hui, je te dirais, c'est une... 400 élèves, c'est une petite année là, pour nous autres à cette heure.
Ouais, c'est ça.
Un lundi.
C'est un lundi. Ouais,
c'est ça. Bref, la place de ce cours-là d'agriculture écologique, c'était justement pour combler dans l'ensemble d'offres de cours un certain manque là, à cette époque-là. Peut-être encore aujourd'hui, il faudrait voir. À savoir qu'il y a des élèves qui veulent pousser et se spécialiser plus dans l'approche agriculture écologique slash biologique.
Ouais, c'est ça. Là, pourquoi qu'on ne dit pas bio depuis tantôt? Là?
C'est ça. Ben, on avait commencé à parler d'agroécologie, fait que je vais peut-être essayer de rapper ça, rassembler tout ça.
Mais j'imagine écologique, tu peux avoir des actions écologiques, même si tu n'es pas dans le bio. Tu peux te soucier de tes bandes riveraines, ces choses-là.
Exact.
Tu peux être bio sans être écologique aussi, dans un sens. Ouais.
C'est ça.
Donnez-moi un exemple. Pas écologique. Puis là, vous allez perdre vos jobs.
Non, mais mettons quelqu'un... C'est permis de mettre du fumier ou du compost dans l'agriculture biologique. Donc, c'est un étrange. Mais si on en met trop, il reste que des éléments fertilisants dans ces fertilisants-là, même s'ils sont d'origine naturelle, puis en trop grande quantité, ben ils peuvent s'écouler vers la nappe ou un cours d'eau, etc. Donc, c'est tout est dans l'usage, et le bon usage et le dosage.
C'est bon. Non, mais cet exemple-là, j'aurais pu le dire moi-même. Donne-moi un autre. Surprends-moi.
Ben, quelqu'un qui fait rien de plus que ce qui lui est demandé, mettons, dans le cahier de charge, puis qui ne voit pas au-delà de l'impact qu'il peut avoir avec justement des bonnes pratiques. Là, les normes bio, ils ont rajouté un volet biodiversité qui n'existait pas avant, mais quelqu'un aurait pu avoir zéro intérêt finalement pour ça, puis que ses intérêts, même en dehors de la ferme, soient à rien à voir avec l'écologie ou l'environnement, mais qu'ils soient peut-être dans le bio au niveau de la prime qui est donnée par rapport à ça. Donc, ouais. Pour des questions financières, finalement. Là. Je ne sais pas si je suis trop dans un nuage. Là.
Non, non.
Mais en tout cas, on va rectifier les choses. C'est pas la majorité. Là. Je pense que c'est un soupçon de gens. Là, aide-moi là-dessus, Ghislain. Là.
Oui, mettons qu'on est en train de chercher une aiguille d'une botte de foin. Ouais. Des bébites, là. La perfection n'existe pas nulle part, là, à la base. Fait que qu'on soit en bio, en conventionnel, n'importe quel type d'agriculture, on reste des humains, puis on peut des fois avoir des pratiques qui peuvent être encore améliorées. Puis c'est plus ça au final. C'est l'important pour moi, c'est OK, oui, c'est les pratiques que tu utilises, mais au-delà de tout ça, c'est l'attitude de toujours être à l'affût, de vouloir améliorer ses pratiques, puis que peu importe le label que tu as, là, certifié bio ou non, le plus important, c'est d'avoir, selon moi, cette attitude-là, de se remettre en question, puis de toujours chercher à faire mieux, tout en devenant pas trop anxieux non plus. Là.
Non, mais ça me ramène à ma première question. Finalement, ça prend de l'amour, là.
Ouais.
Tu sais, c'est de l'amour pour l'environnement, là, finalement. Là.
Mmh. Ouais, puis
améliorer ses pratiques, ça peut être une façon économique, là, rentabilité, etc. Mmh. Mais ça peut être aussi de façon amoureuse de l'environnement.
Oui. Puis moi, je le mettrais dans le terme la valeur de la responsabilité sociale. Puis qu'est-ce qui te motive à être responsable socialement? Ben, c'est une forme d'amour envers les gens qui t'entourent, ton environnement, puis c'est ça, tu sais.
Prochaine génération.
Oui, exactement. Ici, maintenant et plus tard.
Ouais, ouais.
Parce que les deux extrêmes, c'est un peu ce qu'on avait déjà abordé souvent ensemble, mais tu sais, t'as de l'agriculture de substitution où ce que là, ben, tu faisais des pratiques conventionnelles, puis là, tu fais juste changer les produits, mais pour mettre des produits qui sont, eux, biologiques. Mais le nec plus ultra, toi que t'adores, c'est l'agroécologie qui est comme qui trône au sommet un peu, là.
Ouais.
Où on revoit finalement l'environnement ou l'agro-environnement de la ferme.
Oui, ben c'est le top, là. En fait, ça, c'est le modèle de Stuart Hill, un prof. Un des pionniers de l'agroécologie, on va finir par en parler de l'agroécologie.
Je vais finir par savoir que ça veut dire
ce qu'on veut.
Ouais. Mais en fait, l'agroécologie, c'est une science, c'est un mouvement social et troisièmement, c'est des pratiques agricoles. Puis il y a plein d'articles scientifiques qui ont fait le tour de la chose, mais lorsqu'on utilise le mot agroécologie, dans le fond, faut comprendre que c'est ces trois dimensions-là. Des fois combinés ou séparés. Là. J'étais à parler que quand j'ai commencé à enseigner à l'université, ben là, c'était plus de donner des conférences à des gens qui travaillent, c'était plus au niveau du jardinage, mais là, ça devenait au niveau d'impact sur des fermes. Donc, enseignant des futurs agronomes qui travaillent avec des fermes. Donc là, on est à une autre échelle. Puis, enseignant, je me posais les questions agriculture biologique, agriculture écologique. Puis on dirait que je cherchais justement quelque chose qui était encore plus grand qu'agriculture biologique. Quelque chose qui... Ben justement, je me disais, le bio, c'est super. Puis... J'ai été impliqué, puis je suis, puis je serai encore impliqué dans l'agriculture biologique. Mais je me dis, il y a sûrement un cadre encore plus large que le bio certifié. Parce que le bio, en tout cas, trop de choses à dire, mais... mais c'est ça. Donc, je cherchais quelque chose qui allait être encore plus large, puis qui allait inclure d'autres dimensions, tu sais, quand on parle justement de l'aspect de la mise en marché locale, tu sais, Parce qu'avec la montée de l'intérêt du bio puis de sa popularité, ben il s'est développé un bio qu'on dirait entre guillemets bio plus industriel. Puis ben là, on s'éloigne un peu de. On reste dans le cahier de charge bio, mais il reste que lorsqu'on a mis des normes sur le bio, c'était comme un moule à gâteau. T'sais, on avait le bio, c'est un genre de pâte.
Dans lequel il peut y avoir de la monoculture, de la surexploitation du
sol.
Non,
c'est pas ce que je veux dire. Non. Ce que je veux dire, c'est que le bio, dans son essence même, c'est plein de valeurs, puis des trucs qui ne se mesurent pas nécessairement facilement. On parle justement d'économie locale, puis tu sais, si on met des normes sur, par exemple, il ne faudrait pas que tes intrants de ta ferme viennent de plus loin que 100 km de chez vous. Il ne faudrait pas que tes produits que tu vends aient plus qu'à 100 km de chez vous. Tu sais, c'est des affaires que certifier un produit sur cette base-là, ça devient difficile. Tu sais. Mais il reste que à la base même du bio, avant même que les normes existent, toute cette ces valeurs-là reliées à la responsabilité sociale, je dirais, existaient. Mais là, on a voulu créer des normes, puis c'était une bonne chose parce que c'était pour créer un lien de confiance au moment qu'un intermédiaire était nécessaire entre la ferme et les acheteurs. Mais en créant cet intermédiaire-là, il fallait que cet intermédiaire-là, qui est l'agent de certification ou tout le système de certification, puisse avoir des normes. Puis ben ça, il faut que ça puisse se mesurer relativement facilement, etc. Fait en faisant ça, ben, on venait de. Imagine que le bio qu'on avait créé depuis, on va dire, les années 1920, c'est une genre de pâte à pizza bien large, puis qu'il y avait plein de trucs intéressants là-dedans. Mais là, il a fallu créer un système de certification. Fait que ça, ce système de certification-là, imagine, c'est un genre de moule à gâteau en étoile. Fait que là, tu viens appuyer ce moule à gâteau-là. Ce qui rentre dans l'étoile, c'est ce qui est facilement mesurable, puis c'est ce qui va rentrer dans les normes du bio. T'sais, une norme, c'est on trace une ligne. Fait que c'est le moule à gâteau. Mais ce qui est en dehors de l'étoile, qui fait quand même partie de la pâte du bio dans les valeurs ou dans d'autres éléments qui sont moins facilement mesurables, comme toutes les questions de distance, c'est mesurable, mais quand tu arrives pour certifier une ferme, c'est pas gérable de puis c'est même pas.
Non, mais elle pourrait le vendre à un acheteur qui est local, mais qui lui, après ça, il fait faire du chemin au cocombe.
Exactement, c'est ça. Fait que toujours est-il que je me disais. Toute cette pâte-là qui déborde du moule, tu sais, qui aujourd'hui, quand on parle de bio, on parle de ce qu'il y a dans le moule en étoile. Mais y a-tu quelque chose d'autre que le bio qui embrasse comme toute la pâte, là, puis peut-être même plus que cette pâte-là? Puis c'est là que je suis tombé sur l'agroécologie. Puis l'agroécologie, ben ça l'inclut, l'agriculture biologique, mais ça nous amène une paire de lunettes pour regarder et analyser et imaginer les choses plus larges que jusque dans le moule à étoiles.
Fait que toi, tu rêves pas nécessairement d'une certification agroécologique. Ça serait un peu comme... ça viendrait faire une jambette à ce mouvement-là qui est plus dans la philosophie que dans le cahier de charge.
C'est ça. Il faudrait penser qu'est-ce que... Si on avait une certification agroécologique, je pense qu'elle rencontrait les mêmes défis que le bio. Le bio, c'est la norme la plus aboutie, la plus connue, la plus valide dans le monde des certifications environnementales jusqu'à ce jour. Parce qu'on la trouve sur tous les continents, dans plusieurs pays. C'est énorme tout le travail qui a été fait autour puis de la certification biologique. Et malgré les défis que ça pose, il reste que c'est ce qui est le plus abouti, selon moi, jusqu'à maintenant. Donc, une certification agroécologique qui se voudrait comme plus large, ben peut-être qu'on on agrandirait le moule de l'étoile, mais on resterait quand même dans un moule pareil, tu sais, de normes. Puis ça en prend, oui. C'est bien d'élargir notre moule en forme d'étoile, mais faut juste pas oublier que la pâte est vraiment tout le temps plus large de toute façon. Fait que si jamais on mettait une norme agroécologique, ben il faudrait pas que ça vienne effacer tout le cadre de réflexion puis d'effort qui est fait pour tenir en compte tout le reste qui est dans la pâte. Là.
L'impression que ça responsabilise l'acheteur aussi, ce concept-là, c'est qu'à un moment donné, tu fais de l'éducation, puis l'acheteur, lui, il va faire la différence entre un avocat bio puis un concombre bio qui est poussé dans la ville d'à côté là, ou dans sa propre ville. T'sais. Fait que je me trompe ou c'est une bonne façon de rendre l'agro... l'agriculture écologique viable, puis comment je peux dire? Non, je m'exprime mal. Mais en tout cas, bref, l'éducation a un grand rôle à jouer pour pallier au moule en étoile, tu sais, pour qu'on puisse, après ça, avoir des consommateurs qui vont dire, ben, il n'est pas bio, mais, ou il n'est pas juste bio, il est en plus.
C'est ça. Comment dire, d'être comme un peu tout à l'avant-garde. Bon, il y a toutes les questions en ce moment de séquestration du carbone. Ça ne fait pas partie des normes du bio jusqu'à maintenant. Dans quelques années, peut-être que ça en fera partie. Mais jusqu'à temps qu'on se rende là, il ne faut pas enlever ça de notre réflexion parce qu'on se dit, ah, ben, c'est pas dans l'étoile du moule du bio la question du carbone directement. Fait que... Mais en même temps, il y a des gens qui ont déjà comme pensé à ça. À Rodale aux États-Unis, qui est un des instituts forts de la... Du développement du bio en Amérique. Là. En fait, les pionniers en Amérique du Nord du bio, cet institut-là a développé une appellation bio-régénératif. Tu sais. Donc, pour lancer un signal que le bio, le monde, le secteur du bio, les différents organismes qui s'impliquent ont à cœur aussi de penser à des questions qui ne sont pas nécessairement juste dans les normes actuelles, mais qui nous poussent plus loin. Pierre-Antoine parlait de biodiversité. Je veux dire, ça a toujours été dans les préoccupations des gens qui faisaient de l'agriculture bio, mais maintenant, on est encore plus précis et exigeant à l'intérieur des normes bio. Donc, on élargit un peu plus
Donner un exemple de la biodiversité dans l'agriculture, son intérêt, puis comment ça se manifeste?
Ben, des bandes florales pour les pollinisateurs, ça fait partie à cette heure de ce qui est mentionné dans les normes. Là.
OK. Si je veux être bio à cette heure, il faut que je rajoute des fleurs.
Ouais, puis quand tu vas faire ton audit d'inspection, ben, ils vont le valider aussi que c'est bien fait. Là. Tantôt, tu parlais de monoculture, mais tu vois, ça, c'était déjà dans les normes, mais la rotation des cultures est obligatoire dans le cadre des normes. Là. Fait que c'est le moule, nous, on a tendance, je pense, au Canada, puis l'Europe aussi sur cette tendance-là, mais à le grossir pour inclure de plus en plus de pratiques dans ma lecture à moi. Puis les normes sont révisées à chaque 5 ans là, au Canada. Mais des fois, on regarde les voisins américains qui ont accepté l'hydroponie dans la production en serre, donc des engrais solubles qui, chez nous, sont proscrits. Puis des fois, ben, je me dis peut-être que le moule, ils essayent de le rétrécir.
Ouais, il y a une des branches de l'étoile qui rétrécit par rapport à notre perception ici. Ouais.
Exact, mais ça va rester bio quand même. Là, c'est là que des fois, des gens qui critiquent, qui remettent en question, vont s'amuser à trouver ces failles-là. Mais c'est tout ce que je pense que tu racontes depuis tantôt, c'est que c'est une question de compromis, finalement. Là, parce qu'au-delà de l'agroécologie, le nec plus ultra, c'est à ta retraite, ça, Pierre-Luc. Là. Tu t'en vas vivre dans le bois, puis... Tu te fais des vêtements en peau puis en fourrure puis tu manges ce que tu cueilles. Là,
ben non, mais avant ça, là, tu vas faire, ben moi, c'est justement la prochaine question, mais le top de l'agriculture écologique, n'est-ce pas mon jardin derrière chez moi?
J'ai vu mieux.
Pas de transport. Non, mais c'est pas le mien. Excluant la personne qui parle. Mon jardin exclut.
Ouais.
Non, mais je veux dire...
Ben, ça en fait partie.
Il est local, oui. Il est bio, il y a des fleurs.
C'était ma question du début, ça. Pour Michelin.
Ah, c'est quoi?
Un jardin, qu'est-ce que ça donne?
Un jardin.
Bon. Un jardin, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la réponse, c'est ben ça donne l'agriculture écologique?
C'est un des éléments du casse-tête, si on peut dire.
Non, mais dis-moi là, que je suis au sommet là, de l'agriculture écologique parce que je jardine chez nous.
Je te vois même plus, là, je pense que c'est par-dessus les nuages là, du Mont Everest.
Répondez donc sérieusement à ma question.
On peut-tu mettre un bruit de criquet ou un silence de une minute là-dessus?
Je vais mettre la trompette.
Non, mais c'est vrai que la question, elle se pose. Mettons, dans notre cas, dans mon cas à l'INAM, on a accès à beaucoup, beaucoup de légumes en surplus. Là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes. T'sais, au point que des fois, des gens me disent « À quoi bon faire des carottes? » Il y en pleut là, quand ils récoltent à l'école où j'enseigne. Mais n'empêche qu'en été, ben là, je prends pas l'auto pour aller en chercher là-bas ou je prends pas l'auto pour aller en chercher à l'épicerie. Puis mon jardin est vraiment l'extension de mon garde-manger. Puis le menu va être en fonction de ce qui est prêt à être mangé aussi. Moi, je veux juste pas acheter de légumes l'été, là. Fait qu'il faut que j'efface moi-même dans ce contexte-là. Fait que c'est ça que tu fais, là, finalement, chez toi, là, Pierre-Luc.
Ouais, c'est ça. Donc, j'ai raison.
Ah, t'es le meilleur.
Mais... Non, mais pas moi. Non, mais
non,
je dis...
excuse. Okay.
C'est le monde qui nous écoute, finalement, là, qui s'aime chez eux. Là, oui. C'est les meilleurs.
Mm-hmm. Ben, dans le jardinage potager, là, dans le fond, ou comestible, parce qu'il y a différents types de jardinage qui peuvent être ornementales, puis ça nourrit d'autres aspects de l'être. Mais dans ce qui est plus comestible, disons, il y a une fonction nourricière au jardinage, il y a une fonction éducative, puis il y a une fonction, bon, je dirais, émotive peut-être. Là. Puis toutes ces... comment dire... Le jardinage, dans sa fonction nourricière, il y a certaines limites. Quand on n'en fait pas un métier, ça peut arriver que... comment dire? De subvenir à ses besoins alimentaires pour toute l'année, disons. Ben, en tout cas, vous allez en parler avec Robin Leblanc.
Oui. On a déjà commencé à en parler de l'autosuffisance.
Ben, on en parle. On en parle tout le temps parce que ça en est, mais on n'a pas dépassé le 2% encore.
Oui, c'est ça. Mais disons, en tout cas, comme la gang de l'Académie potagère aime bien dire, tendre vers l'autosuffisance.
Ouais,
là.
Donc,
c'est une démarche pour se réapproprier une partie de ces compétences-là que l'humanité a normalement depuis très longtemps, la capacité de produire sa propre alimentation et sur une base familiale, mais avec toute la spécialisation qu'il y a eu dans l'évolution de l'humanité, ben les tâches sont de plus en plus réservées à un groupe restreint de personnes, etc. Donc le geste, les compétences, les connaissances, la relation avec la terre, c'est de plus en plus concentré dans les mains d'un petit nombre de la population qui sont les agriculteurs, agricultrices. Puis c'est pas de leur faute, là, je veux dire. Tant mieux si eux autres sont encore là, mais repose sur leurs épaules à eux de nourrir une grande fraction de la population mondiale. En tout cas, du moins dans les pays occidentaux, disons, ou en tout cas, il y a plein de termes qu'on pourrait utiliser, là, mais il reste que il y a plein d'autres pays où l'agriculture est encore très partie prenante de la vie de tous les jours de au moins 50% et plus de la population. Mais disons que dans nos sociétés à nous, là, parlons de l'Amérique du Nord, de l'Europe, le geste et tout comme je disais, les savoirs reliés à l'agriculture, ben c'est le même phénomène qu'avec une voiture. Tu sais, je veux dire, si t'es pas mécanicien, ta voiture, ben elle te sert à des bons services pour te déplacer du point A au point B, mais quand t'arrives pour quand t'as un problème avec, qu'est-ce que tu fais? Ben tu t'en vas chez le garagiste parce que. Puis là, même les agriculteurs, on pourrait rajouter une coche là-dessus, qui ont des tracteurs de plus en plus technologiques, arrivent même pas eux-mêmes à réparer leurs propres tracteurs dans ceux qui sont les plus avancés technologiquement parce que c'est rendu de l'informatique. Donc...
Non, mais ça répond pas à ma question. Oui. Moi, je veux que tu me dises que la carotte la plus écologique, c'est celle qui pousse dans mon jardin.
La plus écologique. Est-ce que c'est la plus écologique? Ben là, il faudrait voir.
Tu veux qu'il tranche?
Ouais.
Tranche la carotte.
On est dans les nuances.
Moi, je suis.
Oui, c'est ça que j'entends. Ça fait 38 minutes de nuances, là.
Mais je suis. Comment dire? Ben, mon approche est pratique et scientifique et intellectuelle à la fois. Là. Fait que moi, cette question-là, il faut que je la découpe. T'sais. C'est quoi être écologique, finalement? Parce que derrière un mot, il y a plusieurs choses. Donc, si on le prend au point de vue des éléments de la nature, ben il y a la qualité des sols, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la question énergétique, puis la question biodiversité. Je mettrais, mettons, ces 5 grands indicateurs-là. Donc, il faudrait regarder ta carotte qui a poussé dans ton jardin. Quel impact qu'elle a eu sur ces cinq, selon ces cinq indicateurs-là par rapport à la carotte qui a poussé dans une ferme.
Répète-la les cinq, s'il te plaît.
J'ai parlé de qualité des sols, qualité de l'eau, qualité de l'air, la question énergétique, okay, donc les dépenses énergétiques, et cinquièmement, la biodiversité. Okay. Ça, c'est sur les aspects, c'est sur l'axe environnemental de la durabilité.
Moi, je trouve que ça gagne à tous les points de vue. Là, je les repasse dans ma tête, là, puis c'est mon eau de pluie, c'est mes restants de table, mes intrants, mon sol, c'est tellement petit que je ne vais pas contaminer la nappe phréatique avec mon jardin. Au niveau énergétique, je fais rien venir d'ailleurs, à part des graines qui arrivent par la poste. Fait que j'ai gagné. Hey, c'est ma carotte la meilleure.
Ben écoute, je trouve qu'elle a large ses épaules, ta petite carotte. Elle doit être grosse quand même, mettons.
C'est quoi les nuances qui me manquent, là?
En tout cas, elle a certainement une bonne performance environnementale.
Ben, c'est comme tu dis, c'est dur à évaluer, puis il y en a qui s'amusent à le faire. Là. La tomate de serre, c'en est un bon exemple. La tomate de serre du Québec versus la tomate du Mexique, puis en fonction des qui analyse, des fois avec les lunettes qu'ils portent aussi, là, on peut se le dire, ben, semble avoir des tendances à conclure d'un bord comme de l'autre. Là. Fait qu'il n'y aura jamais de réponse noir ou blanc. Mais c'est certain qu'à mon sens, moi, ce geste-là, il est énorme sur la pression environnementale mondiale d'un sens. Là. Fait que faisant le plus possible de légumes, puis je pense que ça rattache le geste de jardiner avec le geste de celui ou celle qui est maraîcher-maraîchère. Fait que toi, tu vas l'apprécier encore plus le métier qu'eux font. Puis peut-être que c'est leur carotte à eux après que tu vas vouloir acheter. Parce qu'après avoir goûté les carottes sucrées de ton jardin, ben, tu vas peut-être vouloir retrouver ce goût-là finalement. Puis le local va t'amener un peu cet aspect-là avec sa fraîcheur, là. Fait que ça fait du sens, ce que je radote là?
Ça fait bien du sens. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut. Dans cette analyse-là de ta carotte, de ton jardin, je pense que c'est vraiment primordial de sortir aussi des paramètres juste environnementaux. Là. J'ai parlé des cinq indicateurs sur l'axe environnemental, mais si on fait une analyse plus large, puis au final, on parle de durabilité. On veut que les actions qu'on pose aujourd'hui ne mettent pas en péril les générations futures de répondre à leurs propres besoins.
D'ailleurs, on salue les gens qui nous écoutent en 2045.
Oui, parce que ça va arriver.
Oui.
Exact. Donc, il faut sortir aussi juste des paramètres environnementaux qui sont très importants, mais les aspects sociaux et économiques. Puis, si on va du côté des aspects sociaux du jardinage, ben c'est ça, on parle. Le fait de se réapproprier ce geste-là, ben c'est de redévelopper une relation avec son environnement, puis ça crée de la compréhension. Puis ça, je pense que c'est vraiment important à cette époque-ci. Je fais pas référence à la matière époxy.
Oh. C'est coupé. Non, c'est ça, comme
je l'avais pas entendu. Merci
pour pas en faire depuis le début. Ouais, tantôt je me suis retenu pour pas dire que mais il y avait des Audi électriques, là, fait que tu pouvais faire tes visites.
Wow! Mais,
ouais, mais c'est ça, non. C'est ça. Parce que l'époxy, c'est pas tant bio.
C'est pas
que
très
ça.
Écologique. Hein.
Mais non, mais c'est ça. Donc, dans une époque où on vit avec ce qu'on appelle l'aliénation, une forme d'aliénation, là, dans le sens, pas qu'on devient fou, mais dans le sens qu'on est de moins en moins apte à comprendre et réparer ce qui nous entoure parce qu'il y a une spécialisation des tâches dans la société, bien, ça fait que maintenant, on ne comprend plus ce qui se passe dans l'autre bulle. Fut un temps dans l'histoire de l'humanité que c'était déjà moins technologique, mais on s'occupait de son alimentation et plein d'autres tâches. Mais aujourd'hui, l'alimentation, c'est quoi? C'est pour la majorité des gens, bien, c'est d'aller... de trouver une façon de trouver les produits, que ce soit au marché du coin ou à l'épicerie, etc., puis après ça, de les cuisiner. Donc, mais tout ce qui vient avant, qui a déjà fait partie intégrante là, de notre mode de vie comme humain, là, ben cette partie-là, on est de moins en moins on comprend de moins en moins comment ça se passe. T'sais. Alors, le fait de jardiner, ben, on reconnecte directement avec ça. T'sais, ça implique quoi de la semence jusqu'à la récolte? Puis tout ce qui vient avec la semence en termes d'y penser, de planifier, même si ce n'est pas des chiffres Excel, il y a quand même un certain thinking. T'sais, je vais en mettre combien de superficie pour tel légume pour combler? T'sais, un mètre carré de carottes, ça représente quoi? Pour combler une partie de mes besoins.
166 carottes.
Oui, je l'ai d'ailleurs, le fichier Excel que toi, tu as fait qui dit combien par mètre carré, puis je suis fourré parce que
je suis tranquille, moi.
Mais il y a tous les éléments liés au climat, aux insectes, aux maladies, puis toute la joie aussi qu'on retrouve à être les mains dans terre. Donc, tout ça, ça a un impact social. Ta carotte de jardin, en plus de sa très possible bonne empreinte environnementale, elle permet cette reconnexion-là entre de l'humain avec...
OK, fait qu'elle est encore meilleure que je pensais, là.
Ben,
Attends, on va parler de mon oignon après.
C'est ça. Ouais. Il y a quand même des formes de mise en marché qui favorisent cette création de liens-là, cette compréhension-là. Lorsqu'on parle de mise en marché direct, ne serait-ce qu'aller au marché public puis de rencontrer les gens de la ferme qui font pousser, ou encore mieux, d'être abonné à un panier d'une ferme. Comme
d'aller chercher sur le bord du champ, là, comme on a la chance de faire nous autres ici, là, ça c'est le top.
Ouais. Exactement. Donc, il y a tout un réseau au Québec que je connais très bien, qui est le réseau des fermiers et fermières de famille.
Qu'on adore.
Exactement. C'est ça, qui ont un rôle, je trouve, très important dans notre société. Ils offrent cette expérience-là, la possibilité aux mangeurs, mangeuses, d'avoir un lien direct avec la réalité de l'agriculture. Il y a d'autres façons d'avoir un lien direct avec l'agriculture, mais de se procurer des paniers, ben, c'est à chaque semaine que tu rencontres le fermier, la fermière ou des gens qui travaillent sur cette ferme-là, puis il y a des infolettres, il y a une communication qui fait que on est moins chacun dans notre bulle, les mangeurs d'un bar, puis ceux qui la cultivent ou qui élèvent. Donc, puis ça nous permet d'éviter une forme de... À l'extrême, ben, on est dans la polarisation. Lorsque on se comprend tellement plus dans nos réalités, d'un côté, le monde agricole cherche à certains besoins à rencontrer, ne serait-ce que des fois dépendre du fumier. Puis si de l'autre côté, ben, il n'y a aucune compréhension, on est tellement déconnecté en tant que mangeur-mangeuse de pourquoi il se met du fumier, ouais, du caca dans les champs.
C'est là qu'on appelle la municipalité, qu'on porte plainte parce que le voisin agriculteur, il pue.
Exactement. Puis il y a... Oui, c'est vrai, ça pue, tu sais, puis j'en suis témoin pour avoir travaillé sur des fermes ou d'avoir été voisin de ferme. Bon. Mais je veux dire, il y a plein de... Dans la vie de tous les jours, dans une famille, il y a plein d'occasions d'avoir des conflits ou des tensions, tu sais, mais qu'est-ce qui fait qu'on avance puis qu'on reste unis en tant que famille ou société? Ben, c'est la capacité qu'on a à communiquer entre nous autres puis à comprendre la réalité de l'autre puis finalement, des fois, diminuer un petit peu nos attentes ou notre niveau d'exigence puis que ça se passe pas à coup d'avocat, mais que ça se passe dans une relation saine de compréhension, d'échange. Puis c'est normal, des fois, d'être comme dans sa famille, d'être frustré contre son frère ou sa sœur, mais au final, en général, dans plusieurs familles, ça finit par... ou entre amis.
Ça passe par la communication, la connaissance,
le dialogue,
le racisme, c'est ça.
Exact.
La xénophobie en général.
Je me souviens d'un poster qu'il y avait à l'université que j'avais utilisé dans mes cours au début. Ça n'avait pas rapport avec l'agriculture, là, le poster, mais je me souviens, c'était un orignal qui était dessus, puis ça disait « La connaissance éloigne les préjugés ». Et je m'étais tant rappelé de ce poster-là, tu sais, je me disais, ben c'est ça, l'éducation dans laquelle j'évoluais aussi, l'enseignement, etc., ça a tout le temps été une de mes motivations, finalement, à évoluer dans le monde de l'enseignement, l'éducation, puis pas seulement qu'au niveau des... En fait, c'est que derrière les connaissances, il y a plus que ça, tu sais. C'est comprendre aussi un mode de vie. Lorsqu'on comprend un peu plus l'agriculture, on comprend mieux ce que ça implique pour les gens qui en vivent. Ou... Fait que quand tu as ton jardin, puis que... Tu check le quand est-ce va être le premier gel à l'automne, parce que t'as un jardin, mais tu t'imagines que toi, t'as quelques mètres carrés, un petit, un moyen, un grand jardin, mais quelqu'un que lui, sa job, ou elle, sa job, c'est toute son économie familiale est basée sur...
4 millions d'épis de maïs.
De carottes. Toi, t'as juste une carotte à te soucier, Pierre-Luc. Imagine si t'en avais 4 millions.
Mais c'est ça. Fait que ta sensibilité, ça mettons, à... cette sensibilité-là, mettons, au premier gel qui s'en vient, toi, tu le vis à l'échelle de ton potager. Mais tu peux rentrer aussi dans la tête de la personne que c'est son métier, puis qu'elle, si le premier gel lui fait perdre de 50% de ses revenus pour le prochain mois, ben. Tu le sens plus, me semble. Là. C'est plus juste intellectuel, parce qu'il y a des affaires qu'on peut accéder, oui, à la connaissance, puis à la compréhension par le cerveau. En fait, finalement, tout passe par là. Pareil, mais je veux dire, dans une approche essentiellement intellectuelle, mais lorsque on le vit aussi en pratique, puis que tous nos sens sont impliqués, comme quand Pierre-Antoine puis bien d'autres étudiants visitaient des fermes, puis qu'on marchait dans les champs, puis même pieds nus, ben t'es encore plus en contact avec le
fumier.
Avec le fumier. À côté du tas de compost. Mais il reste que quand les sens sont impliqués, puis c'est ça que le jardinage amène, c'est plus juste de lire un livre sur la réalité des agriculteurs, c'est de vivre une partie de cette aventure-là. Puis au-delà du terme agriculteur, finalement, c'est juste, si on décompose tout ça, là, finalement, dans sa plus simple expression, c'est le fait de produire de la nourriture et autres. Ça peut être des fibres textiles, ça peut être des fleurs pour l'aspect esthétique, etc. Mais le fait d'être en interaction avec l'environnement naturel, afin de combler une partie de nos besoins. En tout cas, c'est plus intellectuel comme je le présente, mais au final, tu sais, faut pas juste rester au niveau de l'intellect. Faut se mettre les
pieds dedans. Faut le vivre puis avoir un jardin à la maison, c'est ça que tu dis.
Ouais. quand je dis il faut, ben, je veux dire, c'est pour ceux que ça, c'est possible. Là.
Ouais. Que ça soit sur un balcon en bac ou en plein sol à la campagne, tu sais. L'entrevue tire à sa fin, mais avant de finir, on aurait pu parler encore une heure de tes voyages et de tout ce que tu as vu et fait là, finalement dans ta contribution, mais justement au niveau de ton balado, je pense que tu vas amener les gens là, à nos auditeurs qui ont le goût, qui aiment ça du balado. C'est quoi le nom du balado? Parce que tu vas justement connecter des agriculteurs, des agricultrices avec la société. Puis je pense que c'est important, ça. Fait que ceux qui veulent aller plus loin dans cette connexion-là, ils écoutent quoi, là, Ghislain? Là? C'est...
Ça s'appelle « À l'écoute de nos racines ». Et puis, c'est une série balado qui porte sur l'historique. Ben, en fait, c'est en train de célébrer puis de retracer l'histoire des... Ben, ça fait déjà plus que 25 ans que le réseau des fermiers et fermières de famille existe. Puis c'est une perle. Pour moi, c'est une perle dans notre société. Comme je l'expliquais tout à l'heure, par l'existence de ce réseau-là, ben, ça donne une opportunité à plein de mangeurs, mangeuses d'être connectés directement à une ferme. Puis je voulais rendre hommage puis créer une mémoire de ces premiers 25 ans-là du réseau des fermiers et fermières de famille. Donc, à l'écoute de nos racines.
Avec une production impeccable, mieux que vos deux clowns de service, là, moi, Pierre-Antoine et Pierre-Luc. Puis aux gens qui vont l'écouter en 2058, c'est sorti en 2022.
Ils vont écouter les 50 ans du réseau.
Oui, probablement. Ouais. Puis nos 28 saisons.
C'est bon juste pour 24 ans avec ton affaire, je pense.
Oui, à peu près.
Mais y a-tu de la musique trad là-dedans?
Ben nécessairement, ça c'est une autre de mes passions. Donc les trames sonores sont inspirées d'une musique qui est issue du monde rural et du monde urbain, qui est aussi connue pour être une musique rassembleuse. Puis je trouvais que, ben, en plus que c'est un secteur dans lequel je m'implique, je trouve aussi qu'il y avait des beaux parallèles à faire entre la joie de vivre de cette musique-là et les liens qui sont aussi créés et la joie dans qui se manifeste dans la rencontre entre les mangeurs, mangeuses et agriculteurs et agricultrices.
Nos racines carrées, bref, c'est des racines aussi, ça.
C'est exponentiel.
Oui, exact.
Oh, bon, vous êtes bien intelligent.
Ben, une chance qu'on s'aime. Mm. Ah. Mm. On va-tu manger une carotte à midi? C'est ça?
Oui, ben, il commence à être molle.
Ben, merci à vous autres, les boys, parce que, comment dire, vous amenez... Vous créez de l'engouement puis de l'intérêt par vos actions.
Il est poli, là. Ouais, tu peux te dire qu'on est niaiseux, là.
Hey, on ne paiera pas, Ghislain. Je ne sais pas si on te l'avait dit, là.
Non, mais je trouve... tu sais, on parlait depuis tout à l'heure du jardinage puis le fait d'être relié à la terre puis tout ce que ça peut amener comme bénéfice, mais ben, vous créez une forme d'engouement autour de ça qui n'est pas basé sur rien. Là. Donc, puis le fait qu'il y ait une coupe de niaiseries au travers, ben, ça le rend d'autant plus intéressant à suivre.
Ben, tu vois, moi, ça me touchait beaucoup quand tu parlais d'aliénation tantôt parce que moi, c'est en côtoyant des agriculteurs que je l'ai ressenti fort, ce côté aliéné-là. Je trouve que les agriculteurs, c'est sûrement les citoyens les moins aliénés de notre population parce que, bon, malgré ce que tu disais tantôt, en effet, la technologie est de plus en plus importante dans les airs, mais c'est ça fait de nos agriculteurs des mécaniciens, des agronomes, des ingénieurs de sol, de la pneumatique. C'est mm-hmm. malade la quantité mm-hmm. de connaissances mm-hmm. qu'ils ont, eux autres, bien plus que presque tous les autres corps de métier. Tu sais.
Des plombiers, des soudeurs, des électriciens, des ouvriers en même temps, des techniciens, des agronomes, amateurs, des comptables.
Des comptables, oui, c'est ça.
Mais en fait, d'une certaine façon, c'est beau tout ça. Puis de la spécialisation, ça fait qu'on a pu pousser dans plein de domaines puis de repousser les limites de la connaissance. Tu sais. C'est juste que faut pas qu'on se ramasse chacun dans nos bulles, dans des silos indépendants. Puis faut que d'une certaine façon, on fasse des efforts pour connecter ces silos-là. Puis je pense que le jardinage, ben c'est un de ces moyens-là de connexion transversale parce que ça implique plein de trucs, même les mathématiques, la biologie, les arts, le paysage.
Wow. On s'aime-tu, les gars? On ferme le micro puis on s'aime.
OK.
Cet épisode était une présentation de notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui est un réseau solidaire de producteurs maraîchers et de consommateurs soucieux de leur alimentation et de l'environnement. Merci au RFF de porter cette cause-là qui est tellement importante. C'est un geste de développement durable qui dure depuis déjà 25 ans. Merci d'exister et de faire partie de la solution.
Et merci à notre partenaire, le Fertifras, un fertilisant organique tout usage, 100% fumier d'insectes, 100% biologique et 100% québécois.